ni accusé, ni de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, vous avez noté que les caractéristiques énumérées au verset 7 à 9 se divisent en deux groupes, n'est-ce pas? On a au verset 7 des qualités négatives. Au verset 8 à 9, nous trouvons des caractéristiques positives. Ce matin, nous considérons les aspects négatifs dans l'optique de la soustraction gracieuse. D'accord? La soustraction gracieuse. Les enfants, vous êtes, si vous êtes dans un certain niveau à l'école, vous apprenez comment faire la soustraction, n'est-ce pas? On enlève quelque chose, on a un groupe, et après il faut enlever. Hein? Et si vous pensez aux hommes qui se trouvaient en Crète à cette époque-là, les hommes qui faisaient partie d'une culture où le mensonge a été accepté. D'être comme un bête méchant était normal. Ils pensent, on doit penser que quelque chose doit être enlevé de ces hommes avant qu'ils puissent être les anciens, les dirigeants, les pasteurs de l'Église de Jésus-Christ. Ce matin, je veux voir ce que fait la grâce dans la vie d'un homme, une femme. La grâce enlève ou la grâce soustrait. Donc, on va considérer la grâce qui enlève les vices. Et d'abord, quelle est la première chose que la grâce enlève selon ce verset-là? On voit que la grâce enlève l'arrogance. La grâce enlève l'arrogance. Le premier vice, hein, dans la nouvelle édition Genève, c'est l'arrogance. La version Sommer nous donne une traduction qui est frappante. Imbu de lui-même. Ça m'a interpellé. Et dans la version Darby, nous trouvons les mots « non à donner à son sens ». Toutes ces traductions communiquent des facettes du mot grec qui parlent de l'arrogance, de l'obstination, quelqu'un qui est têtu, hein, et de la domination. À la racine, ce vice est un égoïsme profond qui est têtu et autoritaire. D'accord? L'arrogance. Quand nous nous rappelons que Paul parle de ceux qui sont des leaders, des dirigeants, nous voyons tout de suite qu'il s'adresse à un problème très répandu chez les leaders, n'est-ce pas? Même Jésus, pendant son ministère terrestre, il a dit ces mots. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les, écoutez bien, les tyrannisent. Et que les grands les, quoi, dominent. Dans notre monde déchu, les dirigeants sont ceux qui imposent leurs idées et leurs visions sur les autres, n'est-ce pas? Ce sont les leaders. Même si nous détestons les leaders autoritaires, ici, surtout en France, nous désirons quand même avoir des dirigeants capables d'accomplir leur vision pour l'entreprise, l'association ou même le pays. Ils atteignent leurs objectifs de plusieurs façons, d'accord? Il y a bien sûr ceux qui utilisent la contrainte, la menace et l'intimidation, n'est-ce pas? On a des leaders comme ça dans le monde. Mais d'autres sont plus subtils. Ils emploient la manipulation par les promesses, la flatterie et l'exclusion, n'est-ce pas? Quel que soit le mode de fonctionnement, ces dirigeants exigent que leurs subordonnés les aident à atteindre leurs objectifs. C'est trop facile de condamner les chefs d'État ou d'entreprise pour ce genre d'abus d'autorité. Mais il faut admettre que cette tendance existe même en nous tous. On a tous cette arrogance. Ce péché existe chez les mamans et les papas, chez les employés et les employeurs, et même chez les enfants. Est-ce qu'on a les enfants qui sont vraiment arrogants comme ça? Et pour preuve, je vous propose d'examiner le leadership dans la cour de récré de l'école primaire. Qu'est-ce qui arrive, hein? Qui sont les leaders à l'école, au récré? Ce sont ceux qui imposent leur envie sur les autres, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive si un enfant ou plusieurs enfants veulent faire autre chose? Le leader ou les leaders réagissent immédiatement pour assurer que leur volonté soit faite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des menaces. On n'est plus copains. Hein? Non. C'est une menace. Ils font des caprices. Ils promettent des choses. Ah, si on joue ce jeu-là, nous te donnerons quelque chose. Ça, c'est la manipulation pour avoir sa volonté. Même dès l'enfance, nous agissons selon la supposition qu'un leader est quelqu'un qui s'est imposé sa volonté sur les autres pour qu'il l'aide à l'accomplir. Ça, c'est ce qu'on pense naturellement de la leadership. Mais un ancien de l'Église de Jésus-Christ ne peut pas avoir un tel cœur. Il n'est pas un PDG qui accomplit ses objectifs aux dépens des brebis de Jésus-Christ. Selon Jésus, il est le serviteur de l'Église. Il doit être comme Jésus, il doit suivre l'enseignement de Jésus. Un dirigeant de l'Église est un serviteur des chrétiens. Il est appelé à se donner pour le bien spirituel du corps de Christ. Et il faut faire une petite précision, d'accord? Petite précision. Cela ne veut pas dire qu'un ancien n'a pas le droit d'imposer une vision et un objectif sur l'Église, d'accord? Dans cette lettre, Paul dit que les anciens doivent insister, exhorter, reprocher et réfuter. D'accord? Tous ces verbes impliquent l'imposition d'une vision qui n'est pas adoptée par toute l'Église. La différence entre les dirigeants humains et un bon pasteur, c'est la source de la vision et l'objectif, n'est-ce pas? Un pasteur est en fait un sous-pasteur qui est obligé de suivre la volonté du pasteur suprême, Jésus-Christ. C'est pourquoi notre Église doit insister sur l'enseignement de la Bible d'une manière systématique et claire. Vous ne voulez pas écouter les idées de Michael, de Lala. Vous n'êtes pas venu pour l'opinion de Michael, de Lala. Vous êtes venu pour écouter Jésus-Christ dans sa parole. Mais d'écouter Jésus-Christ amène une obligation, n'est-ce pas? Il faut répondre. Et la question pour nous, est-ce que nous sommes arrogants? Exigeons-nous que notre volonté soit faite dans nos maisons, dans la cour de récré, dans la classe, au boulot? Est-ce que nous sommes arrogants? La deuxième chose que la grâce enlève, c'est quoi? Selon le texte, c'est la colère. C'est la colère. Ce mot parle d'un homme qui est impétueux, qui se met en colère très facilement et rapidement. Une telle colère va de pair avec l'arrogance. Un tel homme est très souvent fâché s'il ne réussit pas à faire toujours ce qu'il veut. La résistance, même la plus petite, à sa volonté l'irrite. Cette colère est bien illustrée dans la vie du roi Ozias, qui était en général un bon roi de Juda. Mais la Bible dit ces mots effrayants en 2 Chroniques 26, 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Il voulait offrir un sacrifice lui-même, bien que la loi de Dieu lui interdisait de le faire. Il y avait certains prêtres fidèles en posée et en réponse, nous lisons ces mots. Alors, Ozias, qui tenait un encensoir à la main, se mit en colère contre les prêtres. Il ne voulait pas accepter la résistance. Ce leader a oublié le fait que sa volonté n'est pas suprême. Il s'est irrité contre ceux qui lui ont justement résisté. Un ancien ne peut pas agir comme cela. D'accord? Il doit avoir de l'humilité qui lui permette d'examiner à nouveau ses idées et de se soumettre aux idées des autres. S'il a raison, il faut qu'il ait l'humilité de travailler patiemment avec les autres jusqu'au point où ils sont convaincus. Ça, c'est l'esprit d'un pasteur. Il faut bien faire l'attention au fait qu'il est défendu à tous les chrétiens d'être colériques. Ce n'est pas que les pasteurs. La colère dans nos vies est un vrai problème. D'accord? La Bible me présente le fait que j'ai un problème avec la colère. Et je pense que c'est un problème répandu. Peut-être vous avez perdu l'espérance que Dieu puisse dompter votre colère. C'est pas possible. Je suis comme ça. Vous avez le désir, bien sûr, d'être patient et doux. Vous avez mémorisé les versets sur la colère. Peut-être vous avez beaucoup prié, mais la colère continue à sortir très, très, très facilement. Bon, je vous dis, ne soyez pas désespérés. D'accord? Si vous êtes en Christ, vous pouvez avoir la confiance que la vie de Christ est en vous. La vie du Christ ressuscité vous dynamise. Réfléchissons sur les mots de Paul en Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie d'un chrétien, d'une chrétienne, est en fait la vie de Jésus, mais peut-être nous nous posons cette question. Si c'est vrai, pourquoi je n'ai pas la victoire sur ma colère? Pourquoi la colère est toujours là? Pourquoi Jésus permet-il que nous continuions de pécher? Pourquoi Jésus ne nous transforme-t-il pas immédiatement? Donc, il peut le faire, n'est-ce pas? Il va le faire un jour, soit à notre mort, soit à son retour. Il va nous changer immédiatement et complètement. Pourquoi il ne le fait pas maintenant? Il semble que Dieu ait choisi d'utiliser la corruption qui reste dans notre chair comme un moyen par lequel il nous rend de plus en plus dépendants de Jésus. Si vous luttez avec la colère, c'est parce que Dieu veut que vous soyez de plus en plus dépendants de Jésus-Christ. C'est une chose de dire que nous ne pouvons pas nous justifier devant Dieu, mais c'est une autre chose de dire que nous ne pouvons pas nous-mêmes vivre une vie sainte. Il faut admettre qu'il y a souvent beaucoup d'orgueil et d'indépendance dans notre piété. Ce que nous ne voyons pas clairement, c'est que la piété indépendante est impie. quand nous essayons de contrôler notre colère nous-mêmes, en fait, ça, ce n'est pas saint. Ce n'est pas de piété. Ce que nous ne voyons pas, c'est que la colère restreinte par le moyen de notre propre sang-froid ne donne pas gloire à Dieu. La colère évitée par l'indifférence ou l'apathie ne rend pas gloire à Dieu. Peut-être que Dieu utilise notre colère pour nous rendre plus humbles et plus dépendants de Jésus. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous n'avons aucune obligation de lutter contre la colère, mais cette idée change la nature de notre combat, n'est-ce pas? On n'est plus fixé sur « je dois, c'est à moi ». Avec cette vision des choses, nous devenons fixés sur « Jésus doit » et notre cri est « Au secours, Seigneur, aide-moi ». Et nous savons qu'il y a de l'espérance parce que Tite nous enseigne que la grâce de Jésus a le pouvoir de soustraire la colère de la vie d'un homme afin qu'il puisse être un ancien. Et s'il peut le faire pour une personne, il peut le faire pour nous tous, n'est-ce pas? Il y a de l'espérance. La grâce enlève la colère de nos vies. Troisièmement, la grâce enlève l'ivrognerie. Nous notons ensuite qu'un ancien ne peut pas être adonné au vin ou à la bière ou au whisky. Hein. Ça serait bête de dire, moi je peux abuser le whisky mais pas le vin parce que Paul dit qu'il ne faut pas être adonné au vin. Bon, ça c'est bête. Hein. Mais bon. Je veux qu'on observe quatre vérités claires de cette instruction. Il est clair que l'usage d'alcool est contrôlé par le mot irréprochable, n'est-ce pas? Un ancien doit être irréprochable, donc il ne peut pas être adonné au vin. Un ancien, s'il boit l'alcool, ne peut pas le faire d'une manière qui peut être reprochée par les autres, soit pour les faits sur lui, soit pour les effets sur les autres. Je pense que ça, c'est clair. Deuxièmement, il est clair aussi que Paul met en garde contre l'ivrognerie. Un dictionnaire grec définit ce mot comme ceci. Quelqu'un avec l'habitude de boire trop de vin. En fait, le mot grec, c'est deux mots qui sont mis ensemble, qui disent à côté du vin. C'est quelqu'un qui est toujours avec le vin. Il doit boire. Un homme qui ne peut pas contrôler sa consommation d'alcool ne peut pas être un ancien. Et troisième chose, il est clair que cette interdiction n'est pas limitée aux anciens, comme si les autres chrétiens avaient le droit d'être des buveurs. Hein. Bon, les anciens, tant pis pour vous, mais nous, nous pouvons boire. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Hein. Chapitre 2, Tite, le verset 3. Paul dit, Tite, il faut que tu instruises les femmes d'un certain âge de ne pas être croix, adonnées aux excès du vin. Paul a dû écrire à l'église d'Éphèse qu'ils doivent s'arrêter de s'enivrer. Éphésiens 5, le verset 18. L'abus d'alcool est interdit aux chrétiens. D'accord? Ça, c'est clair aussi. Et la quatrième chose, il est clair que l'alcool pose un danger aux chrétiens. Sinon, il n'aurait pas été nécessaire d'inclure cette instruction, n'est-ce pas? Bon, ayant noté ces quatre vérités, je veux soulever la question. Pourquoi Paul mentionne-t-il ce vice dans ce passage? Pourquoi il doit parler de ça quand il était en train d'écrire sur les qualités d'un ancien? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, pourquoi? Pourquoi cette instruction? Un ancien ne peut pas être un ivrogne pour le témoignage de l'Église et du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est clair. Pourquoi cet accent sur l'irréprochabilité comme l'économe de Dieu? Parce que l'Église est dénigrée aux yeux du monde quand un ancien est accusé. Je me souviens de mon adolescence. Hein. J'avais un pasteur qui a été arrêté par les policiers. Et non pas parce qu'il prêchait l'Évangile. La réputation de l'Église et du Seigneur Jésus a été entachée. Même le monde sait que l'abus d'alcool n'est pas bon. Un économe de Dieu doit agir mieux que le monde. Imaginons la tâche sur la réputation de Dieu si un ancien est connu comme un alcoolique. Fais attention. La deuxième raison pour les anciens, il faut considérer qu'un dirigeant de l'Église ne peut pas être un buveur parce qu'il doit penser clairement. L'alcool obscurcit l'esprit, n'est-ce pas? Un homme fera des choses sous l'influence de l'alcool qu'il ne fait jamais quand il est sobre. L'esprit obscurci amène à des décisions imprudentes. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas boire et conduire. Un dirigeant qui doit prendre des décisions pour le bien des hommes ne peut pas risquer d'agir quand son esprit est obscurci par l'alcool. Il doit donc contrôler rigoureusement l'alcool. Et la troisième raison. Quelle est la troisième raison? Un ancien ne peut pas être un buveur parce qu'il est un modèle pour les croyants. Comme on l'a déjà vu, un ancien est un homme qui a dans sa vie les caractéristiques exigées pour tous les chrétiens. Bon, il n'est pas mieux que les autres. Il n'est pas parfait, bien sûr, sans péché. Mais dans une certaine mesure, il est mûr en Christ. Les autres peuvent dire qu'il est un modèle de ce qui signifie l'instruction de marcher selon l'esprit. D'accord? Cela dit, un ancien ne peut pas boire l'alcool d'une manière qui devienne une pierre d'achoppement pour l'Église ou pour les non-croyants. Il doit incarner devant l'Église la maîtrise de l'alcool. Il se peut aussi qu'il manifeste l'amour dont Paul parle en Romains 14. La disposition de s'abstenir de quelque chose pour le bien des autres. Juste pour un exemple, je viens de recevoir une lettre d'un ami qui est au Cambodge. D'accord? Il est un missionnaire là-bas. Et il nous a raconté dans une lettre comment le mariage d'un couple chrétien a récemment scandalisé les non-croyants dans leur village. Et j'étais étonné que leur décision de ne pas offrir des sacrifices n'ait pas scandalisé le village. D'accord? C'était leur décision de ne pas servir l'alcool au mariage. C'était étonnant, un scandale. Pourquoi une telle décision était scandaleuse? La réponse à cette question se trouve dans un proverbe cambodgien. Pourquoi boire sans s'enivrer? Pourquoi boire sans s'enivrer? C'était le but de boire l'alcool. Hein? Le but de l'alcool dans leur société, c'est l'ivresse. Et notre ami, il a terminé cette partie de sa lettre avec cette phrase. J'apprécie mieux l'abstinence totale de l'alcool pour la plupart des chrétiens que je connais. Leur décision pour l'abstinence est prise à la lumière de ce qui se passe autour d'eux. Un ancien doit avoir le même cœur, même s'il prend une décision différente. Il doit se poser la question, comment ma pratique affectera-t-elle les autres croyants dans l'Église? Ça, c'est le cœur d'un pasteur. La quatrième chose que la grâce enlève, c'est quoi? La violence. Le mot utilisé ici peut faire référence à la violence verbale ou physique. Il fait référence à quelqu'un qui est querelleur. Encore une fois, la Bible va à l'envers de la sagesse humaine. Qui a le droit de diriger les affaires du monde? Notre culture est fière du fait que nous cherchons la justice. Hein? Ce n'est plus la force qui décide ce qui est droit, c'est la loi. Mais ce que j'ai entendu de mes amis dans le monde des affaires, c'est que la violence est vivement présente dans le bureau. C'est toujours là. Chacun est pour soi-même. Si nécessaire, on donne un coup de poignard dans le dos pour avoir une promotion, etc. Comme un ami m'a dit, chacun essaie d'être le chef des autres. C'est pourquoi il a dit, je déteste travail en France et travail à l'étranger. On le voit dans la vie quotidienne, la violence. On crie sur les enfants pour établir l'autorité, à la maison, à l'école. On crie sur une autre pour gagner une dispute. Et parfois, on utilise même la violence physique, homme contre femme, parent contre enfant, ado contre ado, enfant contre enfant. La violence est malheureusement normale dans notre monde, mais il faut dire que la violence est entièrement condamnée par Dieu. Le désir de Dieu, c'est que son peuple soit paisible. Jésus a enseigné que ceux qui font la paix sont appelés quoi? Les fils de Dieu. Pasteur, comme économe de Dieu, ne peut pas utiliser la violence pour imposer sa volonté. Il doit être paisible. Mais les chrétiens aussi ne peuvent pas utiliser la violence. Et la cinquième chose, c'est quoi? La grâce enlève l'avarice. La grâce enlève l'avarice. On dit que le pouvoir corrompt, n'est-ce pas? Le pouvoir corrompt. Cette corruption, malheureusement, existe dans le christianisme. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, des prophètes, des évangélistes qui vendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. S'ils vont venir, il faut payer, franchement. Ça, c'est le christianisme qui est très populaire. Il y a des exemples extraordinaires dans le monde, mais aussi des exemples mondains qui existent dans les petites églises. Bon, je veux être clair, la Bible dit qu'une église est obligée de soutenir ceux qui travaillent pour eux. Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 9 à 14. Il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne musulleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en pain des bœufs? On part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de se croire sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Paul a écrit en 1 Timothée 5, 17 à 18, ces mots sur la récompense des pasteurs. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit, tu ne museras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Bon, je vais être clair. Je ne reçois aucun salaire de cette église. Je ne suis pas en train de prêcher qu'il faut donner afin que j'ai un plus grand salaire. D'accord? Mais nous sommes tous appelés à reconnaître une obligation de soutenir ceux qui travaillent pour notre bien spirituel. Cela dit, Paul est clair, un ancien ne peut pas aimer l'argent. Soit le Seigneur est le maître, soit l'argent est le maître, selon Jésus. Et ça, c'est vrai pour nous tous. Aimons-nous là l'argent? Vivons-nous pour gagner l'argent, pour avoir la sécurité, d'avoir une position, un standing devant les autres, d'avoir les expériences? Ou aimons-nous Jésus-Christ surtout? Acceptons-nous ce qu'il fait. Qu'est-ce que la grâce fait dans nos vies? La grâce enlève les vices. Les vices comme l'arrogance. Les vices comme la colère, l'ivrognerie, la violence et l'avarice. Je pense que tout le monde est touché par ces choses. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et quelle est notre réponse, hein? Quelle est notre réponse? J'ai pensé à deux mots, d'accord? Je vais vous donner deux mots avec un peu d'explication. Premier mot, c'est l'humilité. Sommes-nous prêts à accepter le fait qu'il faut soustraire des choses de nos vies? Nous vivons dans une société où la plupart des gens disent « Oui, je suis un homme, une femme de bien. Ça va. Je fais ce qui est bon, je ne suis pas méchant. » Il faut l'humilité de dire « Moi, j'ai besoin d'avoir ces choses enlevées de ma vie. » Parce que ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et si vous êtes venu ce matin et quand vous regardez cette liste et vous disiez, hein, vous disiez à vous-même, bon, ça c'est moi, je suis colérique, je suis avarice, je suis violent, j'ai l'arrogance dans ma vie. Peut-être j'ai un problème avec l'alcool. Si ça c'est vous, je vous appelle à l'humilité, la confession. Si vous disiez, Dieu, tu as raison, d'accord? J'ai un problème. Ça, c'est le premier pas vers la guérison. Parce qu'ils répondent à l'humilité, mais ils résistent à l'orgueil. Nous sommes appelés à confesser nos péchés. Oui, je suis un homme de colère. Je suis un homme de violence. Je suis un homme d'avarice. Je suis un homme arrogant. Et le deuxième mot, c'est quoi? L'humilité et l'espérance. Je ne pense pas que Dieu veut que cette liste agisse comme un marteau pour nous casser. Je pense qu'il veut dire, regardez ce que la grâce peut accomplir dans votre vie. Il faut l'espérance. Et on peut avoir l'espérance, pourquoi? Parce que Dieu répond à notre foi. Nous pouvons mettre notre confiance en Dieu et il va agir. Si vous luttez avec ces choses, il y a de l'espérance. Parce que si vous croyez ce que Dieu dit, si vous confessez, vous dites « je ne veux plus être comme ça », et vous regardez à Dieu lui-même, vous dites à Dieu, sauve-moi, il va venir, il va vous aider jour après jour après jour, mais comment? Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de magique, hein? Non. Comment Dieu agit-il? Il agit par les moyens de la grâce. Et quels sont les moyens de la grâce? La Bible? Il a promis, hein, il a promis, ma parole ne retournera jamais sans effet. Est-ce que nous sommes en train de mettre la parole de Dieu dans nos vies pour voir le changement? La prière. Dieu a dit qu'il exauce les prières de ses enfants. Prions-nous. La communion fraternelle, est-ce qu'on est un peu isolé ou est-ce qu'on passe le temps avec les frères et les sœurs pour être encouragés dans la foi? L'Église, la prédication, est-ce qu'on écoute avec attention l'enseignement de la Bible afin que nous puissions être changés? Dieu est fidèle. Et ce que je veux voir dans ma vie, franchement, et dans votre vie, c'est l'humilité et l'espérance.